Voilà. Il parle un peu vite. Je ne sais pas si vous avez le temps de suivre quand même. Je pense qu'on a pu relever certains points. Moi, j'en ai relevé. Est-ce que il y a des interventions? Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce témoignage?
C'est vrai que par rapport à ce témoignage.
Le micro n'est pas ouvert, on dirait.
Alléluia. C'est vrai que par rapport à ce témoignage, ce que je retiens, c'est qu'en fait, il faut avoir foi en Dieu, en fait, à tout moment. Or, nous, des fois, c'est vrai qu'on invoque le nom du Seigneur, en fait, pour certaines circonstances, et pour d'autres, c'est vrai qu'on se laisse abattre. Enfin, moi, la première, hein. Donc, c'est ça qui m'a touchée dans le témoignage de ce monsieur-là, quand il invoque le nom du Seigneur, c'est vrai qu'on réalise vraiment que c'est un nom, puissant.
Amen. Y a la sœur Septine après qui va intervenir.
Qu'il s'est senti libre alors qu'il avait encore 2 années à faire en prison, mais il s'est senti libre au moment qu'il a accepté Jésus. Il s'est senti libre alors qu'il était en prison.
C'est ça qui t'a quoi?
C'est ça qui m'a beaucoup touché parce qu'il disait qu'il s'est senti libre au moment où il a prié Jésus, il pleurait.
Et quel enseignement toi tu tires de ça?
Que quand on prie Jésus, sincèrement, on se décharge d'un gros poids lourd, même si on est dans les conditions difficiles.
D'accord.
Aussi, en fait, ce que j'ai relevé, c'était que, en fait, quand il s'est retrouvé devant le monsieur en prison qui voulait lui aussi l'étrangler, en fait, il s'est rappelé d'une parole qu'il avait lue le matin dans la journée. Et du coup, ça m'a enseigné que parfois, en fait, on peut négliger des petites paroles qu'on peut recevoir par Dieu en lisant la Bible le matin. Mais c'est ça qui va nous aider en fait dans le combat qu'on va affronter dans la journée, parce que c'est quand il s'est souvenu en fait du verset qui disait que il pouvait mourir par l'épée, bah, ça l'a empêché en fait de commettre ce qu'il allait faire.
D'accord, c'est un point qui est vraiment très important. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude, peut-être dans notre contexte à nous, d'être enseigné, d'entendre des prédications, d'entendre des exhortations, de venir à l'enseignement le mardi, que quelque part, il y a une forme d'habitude qui s'installe et on n'arrive plus vraiment à discerner lorsque les événements arrivent, alors que tout ce que le Seigneur nous a donné avant, eh ben, c'est certainement pour nous préparer dans les jours à venir. Et il arrive bien souvent qu'on oublie les enseignements qu'on a eus la veille, qu'on a eus quelques jours avant. On vit quelquefois trop par rapport au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose aujourd'hui, on a le sentiment, bon, c'est pour consommer aujourd'hui et puis demain on passera à autre chose. Alors que le Seigneur, lui, nous prépare pour les jours à venir. Donc on doit vraiment prendre conscience que ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui, c'est peut-être ça qui va nous sauver d'une situation dans 2 mois, dans 1 mois, dans 1 semaine. C'est pourquoi la Bible nous dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc pour nous, c'est très très important que ce que nous recevons, de prendre l'habitude de le pratiquer tout de suite, de prendre l'habitude de prier afin que ça demeure en nous pour que le jour J, et que cette parole nous revienne et nous permette de demeurer dans le Seigneur, nous permet de ne pas pécher contre Dieu parce qu'on aura retenu ce que le Seigneur nous avait donné avant. Donc c'est vraiment un point qui est très très important. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous rappellera ce que le Seigneur nous a enseigné. Mais pour que le Seigneur nous enseigne, ou en tout cas pour que le Seigneur nous rappelle ce qu'il nous a enseigné, ben il faut déjà qu'on se laisse enseigner. Parce que le jour de l'épreuve, il y a des gens qui peuvent se retrouver totalement démunis, puisqu'ils ne passent pas du temps dans la parole. Ils ne retiennent pas les prédications, les enseignements. Donc au moment où l'épreuve est là, le seul recours qu'il a, c'est de trouver le téléphone pour crier au secours quelque part. Donc il n'y a aucune parole qui va le soutenir, qui va se remémorer pour être capable d'affronter la réalité que le Seigneur permet dans sa vie. Tout ce que le Seigneur permet dans notre vie, comme il le dit, il ne permettra pas qu'on soit dépassé, il ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Le Seigneur ne le permettra pas. Et s'il dit qu'il ne le permettra pas, c'est tout simplement parce qu'il nous en donne le moyen. Donc les moyens, on les a. Pour chaque épreuve difficile, pour chaque épreuve compliquée, les combats que nous vivons, si le Seigneur permet que l'on rencontre ces difficultés aujourd'hui, c'est qu'il estime que les jours d'avant, il a fait ce qu'il fallait pour nous préparer à vivre la journée d'aujourd'hui. Donc si nous tombons, si nous ne faisons pas ce qu'il convient de faire bibliquement, ça veut dire tout simplement que nous sommes passés à côté de la parole du Seigneur. Nous sommes passés à côté de l'avertissement de Dieu. Nous sommes passés à côté de l'enseignement du Seigneur. Parce que certainement, le Seigneur qui est prévoyant et qui nous aime ne peut pas nous livrer, nous amener à l'abordage et dire « débrouille-toi ». S'il te met en face d'une situation qui est difficile, c'est que quelques jours avant, quelques semaines avant, quelques mois avant, il t'avait préparé à cela. Mais la réalité, c'est est-ce que nous saisissons vraiment la richesse de tout ce que le Seigneur nous donne ? Que ça soit par l'enseignement, que ça soit par l'exhortation, est-ce que nous réalisons que toutes ces choses-là que le Seigneur nous donne, c'est pour nous préparer à tenir pour demain ? Comment tenir ? Les temps sont difficiles. Nous vivons des épreuves. Le monde est pourri. Comment tenir dans toutes ces conditions-là jusqu'au retour du Seigneur ? Ce n'est que par la parole. On ne peut pas inventer un autre moyen pour tenir ferme devant les épreuves. Il n'y a pas d'autre moyen que l'enseignement du Seigneur. Ça veut dire que c'est à nous de saisir toutes les fois où le Seigneur nous confronte, où nous met dans des conditions, où nous sommes enseignés, où nous sommes exhortés, de tenir compte que là, le Seigneur ne me parle pas en vain. L'erreur que nous faisons, c'est que quelquefois, l'enseignement que nous pouvons entendre aujourd'hui, c'est comme si ça ne correspond pas trop avec notre situation. Donc, on a le sentiment que c'est plus pour l'autre frère, c'est plus pour la sœur qui est absente aujourd'hui. Mais bon, je prends quand même, mais par rapport à ce que je vis, ce n'est pas vraiment les réponses que j'attendais. Mais le Seigneur lui donne la nourriture au temps convenable. Quand il donne aujourd'hui, c'est qu'il sait que tu en auras besoin à un moment donné. À un moment donné, tu en auras besoin. Et c'est ce qui fait aussi que notre croissance spirituelle est retardée. C'est qu'on méprise en réalité ce que le Seigneur nous donne, la façon dont le Seigneur nous enseigne. Voilà, on le méprise, même si on ne le dit pas dans notre bouche et qu'on ne défie pas Dieu sciemment, mais le simple fait de ne pas chérir la parole de Dieu, de ne pas garder les enseignements que le Seigneur nous donne, c'est la démonstration que quelque part, bon, on se contente de peu. On se contente de peu. Voilà, donc c'est peut-être les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui dans les pays comme le nôtre où il y a une certaine liberté, un certain confort, que bon, la parole quelque part devient tellement accessible qu'on ne réalise plus vraiment sa richesse. Mais ceux qui viennent de loin, ceux qui font la route, ceux qui vont très loin pour entendre la parole, je peux vous dire qu'eux gardent bien la parole parce que pour eux, chaque fois que le Seigneur leur permet de participer à un culte, c'est une grâce qui est particulière. Donc, faisons attention à ne pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Réalisons tout ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Gardons-le. Si tu dois voir ton petit carnet, même faire juste un petit résumé de l'enseignement que tu as reçu, fais-le. Un jour, tu te souviendras que, tiens, on m'avait enseigné telle chose pour telle situation. Aujourd'hui, je vis ça. Je mets en pratique. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle. Donc, c'est vraiment un point très, très important que la sœur Septine a soulevé. D'autres interventions ? Oui.
Alors moi, je voulais dire, ce qui m'a frappé, c'est que le missionnaire a été très persévérant. Il a mis 3 ans à l'évangéliser. Il aurait pu se décourager ou dire, il a entendu une fois, c'est bon. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est sa persévérance jusqu'à ce qu'il soit vraiment converti. Donc je pense que quand on évangélise, parfois, il y a des personnes, il faut vraiment les suivre longtemps, pas se décourager, parce qu'elles ne vont pas se convertir tout de suite.
Voilà, on gère, c'est vrai, au cas par cas. Lui, il était disposé aussi, par la suite, à recevoir le missionnaire. Mais il peut arriver quelquefois que tu évangélises une personne qui t'envoie directement bouler. Donc là, tu ne vas pas aller chaque fois frapper à sa porte, parce que ça va paraître comme si tu l'agressais. Mais effectivement, que les personnes qui manifestent comme un minimum d'intérêt, on doit justement avoir le discernement pour savoir que c'est une âme que le Seigneur veut sauver, en sachant que le Seigneur veut sauver toutes les âmes. Mais derrière ce point-là, je soulève un point. C'est celui que ce missionnaire avait certainement compris quelle était la valeur d'une seule âme. Parce que beaucoup peuvent se dire, ce n'est qu'une personne, bon, je préfère me concentrer là où il y a toute une famille peut-être, là où il y a tout un troupeau, c'est là-bas que je dois aller travailler. Et il a pris un engagement juste pour une seule âme. Et c'est ça qui est très très important. C'est ça qui est très très important. Ne croyons pas que l'œuvre de Dieu se limite autour d'un bâtiment dans lequel il y a des activités. Pour une seule personne, et le Seigneur en donne, hein, voilà, lorsque une brebis est égarée, il laisse les 99 et il va chercher. Donc ça nous montre vraiment l'importance que le Seigneur donne à une seule personne. Donc si nous aussi, le Seigneur nous met dans une situation où nous sommes appelés à soutenir une seule personne, faisons-le vraiment avec sérieux, en nous souvenant que Jésus-Christ est mort pour cette personne-là et que cette personne, quelle qu'elle soit, elle est en prison parce que condamnée par la justice, elle est en prison, rejetée par la société à cause de ses crimes, mais ça reste une âme que le Seigneur aime et une âme pour laquelle le Seigneur a le regard posé. Tant que la personne n'est pas morte, ça veut dire qu'il y a toujours la notion du salut qui est là, la question du salut qui est là pour cette personne-là. Donc, tant que la personne montre comme un certain intérêt, ne baissons pas les bras, allons-y. Et même si la personne ne veut pas nous rencontrer, eh bien, ça ne nous empêche pas de prier pour la personne, de ne pas l'oublier dans la prière. Parce que l'un des projets du diable, c'est de nous amener quelquefois à être aigris vis-à-vis de certaines personnes, à être dérangés vis-à-vis de certaines personnes, et ce qui fait qu'on ne prie même plus pour cette personne-là. Mais si cette personne dans son environnement, la seule personne chrétienne qu'elle connaît, c'est toi, et que toi, tu ne peux plus, donc c'est une personne qui est comme livrée à elle-même spirituellement. Donc on doit comprendre notre responsabilité. À chaque fois que le Seigneur nous met à cœur une personne, on doit porter la personne jusqu'au bout. Une fois, on avait eu un enseignement et qui m'avait, en tout cas, avait été une réponse pour moi dans beaucoup de cas. On peut des fois se fatiguer à exhorter certaines personnes où on se dit, mais elle fait exprès. Elle n'écoute pas, tu lui dis de faire ça, elle fait le contraire, elle te dit oui aujourd'hui, demain elle recommence. Et à des moments donnés, certaines personnes peuvent, oui, irriter, peuvent te fatiguer. Et on nous avait enseigné que tous les gens qui seront sauvés ne serviront pas le Seigneur au même niveau que toi. Il y a des personnes qu'on va prendre dans la main jusque devant la porte du ciel. Ce sont des cas qui peuvent être lourds, des personnes difficiles à gérer, mais on n'a pas d'autre choix que de les tirer jusque devant la porte du ciel et puis mission accomplie. Donc on doit aussi être prêt à ça. On ne doit pas simplement se mettre dans une configuration où on veut s'occuper des personnes qui disent oui et amen, qui obéissent à tout ce que l'on fait. Tout le monde n'aimera pas le Seigneur au même niveau que toi tu l'aimes. Certains aimeront le Seigneur au niveau peut-être d'être sauvé, mais de t'engager comme toi tu es engagé dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde ne servira pas le Seigneur comme ça. Mais ce n'est pas une raison justement pour délaisser ces personnes-là et dire bon, reste dans son coin. Non, on doit les tirer puisque le Seigneur nous a supportés. Nous aussi on doit supporter les autres. Intervention. Moi, je voulais soulever un point sur la puissance de l'évangile. La conviction que moi j'ai aujourd'hui, la conviction que toi tu as, tu es convaincu d'être dans la vérité. Et je crois que même si un musulman vient par toutes ses gymnastiques et essaie de te convaincre de venir chez Allah, tu n'iras pas. Parce que tu es convaincu que Jésus-Christ est vraiment le Messie. Mais ceux qui sont dans le bouddhisme, ils sont aussi convaincus que toi, tu es dans le Christ, dans le Seigneur. Lui, il a été élevé dans la tradition bouddhiste. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui faisait partie de sa vie. Chrétien, on le devient. Mais tout ce qui est le bouddhisme, ou bien comme l'islam, c'est comme si eux, ils naissent musulmans. Il n'a pas le choix. Il naît musulman. Donc, ce n'est pas un choix qui vient. Non, il naît. Quand il naît, il est musulman. Un point, c'est tout. Et lorsque la tradition est ancrée comme ça, c'est comme si pendant toute ta vie, tu sais que 2 plus 2 égale 4 et qu'un jour on te dit non, on t'avait trompé, 40 ans, 50 ans après, on te dit en réalité 2 plus 2 égale 6. Mais pour intégrer ça, c'est quelque chose qui va être compliqué parce que tu as fait tous tes calculs en fonction de ça. Tu as géré ton argent en fonction de ça. Tu as géré ta vie en fonction de ça. Et 50 ans plus tard, on te dit que c'est faux. Mais c'est difficile. Donc des personnes qui sont nées dans une tradition, dans une culture, quelque chose qui fait désormais partie de sa vie, lui dire que tout ça c'est faux et que la vérité c'est ça, c'est pas facile. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut emmener une personne à considérer que tout cela, finalement, tout ce que mes grands-parents m'ont appris, les choses dans lesquelles j'ai grandi, tout ça c'est faux pour suivre le Seigneur, il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse faire ça. Donc c'est pourquoi l'apôtre dit clairement que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et ça, c'est une réalité qui doit nous fortifier et nous rassurer. Lorsque nous parlons du Seigneur, on doit être rassuré et persuadé que le Dieu que nous présentons, le Dieu est capable de changer la personne. On peut être découragé quelquefois en fonction des réponses que les gens nous donnent. Mais la réponse que les gens, que la personne peut nous donner, ne reflète pas la réalité qui est dans son cœur. Parce qu'au moment où la parole de Dieu est semée, ce qui est sûr et certain, c'est que cette personne sera tourmentée d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, cette personne sera tourmentée. Donc pour nous, on doit être rassuré par ça, et ce qui va nous amener tout simplement à semer la parole de Dieu en sachant que tôt ou tard, ça produira du fruit. Ça amènera en tout cas la personne à faire un choix clair. Un autre point, ce qui l'a amené finalement à être vraiment au fond du gouffre, au fond du trou, c'est la mort de sa fiancée par accident. Là, ça l'a amené vraiment en bas du trou, au fond de l'abîme, et il dit qu'il est devenu une personne détestable, animé d'une violence, animé d'une telle rébellion qu'il a même, quelque part, rejeté même les traditions qu'il avait reçues. Donc, on voit par là que, peut-être ça a été le cas de certains d'entre nous, que lorsque nous voyons les malheurs quelquefois se multiplier dans la vie d'une personne, ne nous opposons pas au plan de Dieu. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que lui soit au courant. Ça veut dire tout simplement que le Seigneur maîtrise toutes choses. Donc lorsque le Seigneur permet des événements difficiles et qui peuvent même paraître insurmontables pour un seul homme, disons simplement, Seigneur, utilise ça pour ramener cet homme-là. Nous, souvent, on veut courir à la consolation, on veut courir à ce que le Seigneur apaise la personne, qu'il arrête, il abrège les souffrances, mais on ne sait pas ce que le Seigneur fait. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne se trompe pas. Et qu'il a fallu pour cet homme-là qu'il vive des situations très, très difficiles jusqu'à se retrouver en prison pour que son cœur devienne disposé à entendre l'Évangile. Que son cœur devienne disposé à recevoir le salut. Donc, que le Seigneur nous accorde le discernement. Quelquefois, on va paraître pour des gens sans cœur, pour des gens méchants qui n'ont pas de compassion. Non, ce n'est pas qu'on est méchant, ce n'est pas qu'on n'a pas de compassion. C'est qu'on a compris que c'est Dieu qui maîtrise toutes choses. Et que ce que le Seigneur permet dans la vie et des uns et des autres, il y a un objectif qui est là. Il y a le projet de Dieu qui est en train de s'accomplir parce que le Seigneur aime cet homme. Donc, c'est vraiment très, très important. Ne croyons pas que nous sommes beaucoup plus compatissants que le Seigneur, que nous sommes plus miséricordieux que le Seigneur. Lui, le Seigneur a donné son Fils pour les humains pour lesquels nous avons pitié. Le Seigneur a donné son Fils. Donc, il veut les sauver. C'est à nous de nous mettre quelque part, je dirais, à la dimension de Dieu, c'est-à-dire de voir la situation comme le Seigneur lui voit cette situation-là, afin d'être apaisé et de prier comme il le faut pour le salut des personnes. Un autre point, lorsqu'il explique le travail que le missionnaire a fait dans sa vie, moi, ce qui me frappe, c'est de voir que il n'y a pas eu, je dirais, des débats autour de la société, ou bien que le missionnaire a cherché à le convaincre en lui expliquant la souffrance des humains. Non, il n'a parlé que de la Bible. Il dit, il me parlait de la création. Il me parlait de la résurrection du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que ce missionnaire n'a rien inventé. Il n'a pas inventé des théories, il n'a pas cherché à convaincre avec des paroles humaines, à vouloir prouver. Il a expliqué la Bible telle que la Bible est. Voilà. La puissance, c'est l'Évangile. La puissance, ce n'est pas notre parole. Ce n'est pas parce que tu vas parler forcément avec conviction, avec assurance, que ça va changer le cours des choses. Ce qui change le cours des choses, c'est la puissance de l'Évangile. La puissance se trouve dans l'Évangile. La puissance ne se trouve pas dans notre bouche à nous. Nous sommes des instruments. C'est la parole de Dieu qui fait l'effet dans la vie d'un homme. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Donc il faut naître d'eau, c'est-à-dire par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme une personne. Dans l'Épître aux Éphésiens, on nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que nous avons cru à l'Évangile. Donc c'est l'Évangile, lorsqu'elle est semée dans la parole d'un homme, qui opère dans cet homme-là des changements, une transformation. Ce n'est pas notre bouche à nous, mais c'est tout simplement la parole de Dieu qui opère ce changement et cette transformation. Et ce missionnaire s'est contenté de prêcher tout simplement l'évangile. Il n'a rien inventé. Donc l'évangile est simple pour ceux qui l'acceptent aussi, et elle est simple aussi pour ceux qui ont cru. Il a annoncé l'évangile parce qu'il y croyait. Et c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il parlait parce qu'il croyait en Dieu. C'est pourquoi il faisait la démarche de venir jusqu'à moi, parce qu'il était convaincu de Dieu. Pour prêcher l'évangile, il faut être convaincu que c'est la parole de Dieu. Il faut être convaincu que la parole de Dieu est puissante et agissante. Si nous-mêmes nous doutons de la parole de Dieu, ben c'est la raison pour laquelle ben, on ne sera pas non plus, je dirais, à l'aise ou bien prompt à aller dans l'évangélisation ou bien parler librement du Seigneur. Nous devons croire que la parole de Dieu est vraie et qu'elle est la parole de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui doutent même de certains versets. Quand on dit ben, que le peuple d'Israël a traversé la mer s'est ouverte en deux, donc quelque part certains chrétiens s'associent même à la théorie de dire « oui, mais bon, c'était une période de l'année où la marée était basse, il faut comprendre ». Non, la mer s'est vraiment ouverte en deux. C'est ça la réalité. Mais il y a des chrétiens qui doutent même de ça. Donc lorsque tu doutes même de ça, mais il n'y aura aucune efficacité parce que le Seigneur veut utiliser des personnes qui croient en lui. Des personnes qui croient en lui et qui croient que l'évangile est vrai et véridique. Et c'est ce que ce missionnaire a fait. Et en prêchant l'évangile dans sa toute simplicité, il a gagné une âme. Lorsque l'apôtre Pierre prêche le jour de la Pentecôte, je le dis souvent, moi ce qui m'a étonné, c'est la simplicité dans les mots qu'il dit, quand on lit la prédication de Pierre. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il dit. Il dit, voilà ce Jésus-Christ-là que vous avez crucifié, c'était lui qui était venu pour le salut. Donc il explique quelque chose simplement. Conséquence, 3000 personnes se convertissent. À chaque fois que je lis ce passage, je me dis, mais qu'est-ce que Pierre a dit d'extraordinaire? Il n'a rien dit d'extraordinaire. Il a présenté les choses telles qu'elles se sont déroulées, un point, c'est tout. Et le Seigneur a fait le travail, 3000 personnes se convertissent. Mais voyez à notre époque, combien de prédications il faut donner. Même le chrétien qui a reçu la parole de Dieu, déjà qui a cru, mais pour l'emmener vraiment à même à s'engager, à travailler pour le Seigneur, mais il faut prêcher des années. Il y a des chrétiens, ça fait des années qu'ils entendent la prédication, mais ils se contentent tout simplement d'être sur le banc de touche. Donc vous imaginez comment le cœur de l'homme est dur. Mais simplicité, prédication simple, 3000 personnes se convertissent. Donc on voit clairement que c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Nous avons tout simplement qu'à parler et à faire confiance à l'évangile. Ne cherchons pas à améliorer, à donner, je ne sais pas, des mots de quelle façon, à vouloir faire des prédications extraordinaires en donnant des mots des fois que même des gens ne comprennent même pas. Disons les choses terre à terre, parlons au niveau des hommes, des êtres humains, afin que les gens comprennent l'évangile aussi simplement que le Seigneur l'a donné. Amen. Ce missionnaire-là croyait en Dieu, et c'est la raison pour laquelle il allait visiter. Et je voulais dire, à partir de ce point-là, ça montre tout simplement que notre foi va déterminer aussi notre façon de servir le Seigneur. Donc à travers le service du Seigneur, voilà, on voit aussi finalement le niveau de foi ou notre manière, nous personnellement, de vivre Dieu. Ça se voit dans la façon dont on s'investit pour l'œuvre du Seigneur. Ça se voit dans la façon dont on cherche à faire avancer le royaume de Dieu. Ça va se voir. Parce que celui qui est vraiment déterminé, qui a vraiment la foi dans le Seigneur, eh bien, servira le Seigneur à la hauteur dont le Seigneur le mérite, tout simplement. Il y a une intervention? Non? Voilà, c'est dans la prison, comme la sœur Sandrine l'a soulevé tout à l'heure, il était en prison, mais il dit qu'il se sentait libre. Donc ça nous montre tout simplement que la vie dont le Seigneur parle, la vie selon le Seigneur, ce n'est pas une vie qui met en avant la chair, c'est une vie qui est avant tout spirituelle. C'est la raison pour laquelle, bien qu'enfermé, bien que dans les chaînes, il dit qu'il se sentait libre. Ça veut dire que le monde des humains, la prison telle que les choses étaient présentées n'avait plus du tout d'influence sur sa perception de la vie. N'avait plus du tout d'influence sur la perception qu'il avait de Dieu. Toutes ces choses-là ne pouvaient pas l'impressionner et le détourner parce que ça n'influençait plus sa vie. Quelles que soient les injures ou la maltraitance de la part des gardes, tout ce qu'il pouvait subir de difficile dans la prison, n'avait plus d'influence sur lui parce que sa liberté, il la vivait véritablement dans le Seigneur. Et cette liberté que nous vivons dans le Seigneur, ben c'est tout simplement la mort en Jésus-Christ. Puisque un mort ne répond plus. Si tu gifles un mort, il va te dire quoi ? Il ne va rien dire. Si tu prends le corps d'un mort, tu le laisses dans la rue, il ne va pas se déplacer pour aller à la mort, il restera là. Parce qu'un mort ne répond plus. Donc cette liberté dont il parle, c'est tout simplement la mort dans le Seigneur. Puisqu'il était mort dans le Seigneur, mort par rapport à la vie de ce siècle-là, ça veut dire que tout ce qui se passait sur la terre n'avait plus d'influence sur lui-même. Et nous devons prier pour arriver à ce niveau-là. Afin que même si on t'injurie, ça ne te fait rien. Même si on te trahit, ça ne te fait rien. Parce que les choses de la terre n'ont plus d'influence sur toi. On veut t'emmener à idolâtrer telle chose, ça ne marche pas. Parce que ton regard est tourné vers le Seigneur. On veut te proposer de l'argent pour te corrompre, ça ne marche pas. Puisque c'est lié à la terre, ça n'a plus d'influence sur toi. C'est ça la véritable liberté. C'est de ne plus être dérangé par tout ce qui est lié à la terre. Donc à chaque fois que nous murmurons, parce qu'il nous manque quelque chose, à chaque fois que nous sommes dans la convoitise, dans la jalousie, dans la colère par rapport à un événement, ça veut dire que nous ne sommes pas encore morts par rapport à cette vie-là. Or, la véritable liberté, c'est que quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit le contexte, nous sommes libres de louer notre Dieu, nous sommes libres de parler au Seigneur, nous sommes libres de faire ce que le Seigneur attend de nous. Parce que nous sommes morts par rapport à cette vie et nous sommes désormais libres en Jésus. C'est cette liberté-là. Quand l'apôtre dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, justement, c'est cette liberté. La liberté de ne plus être esclave de la chair, de ne plus être esclave du monde, de ne plus être esclave du système du monde, mais de vivre, et comme la Bible nous dit, d'être esclave de la justice de Dieu. Donc vivre uniquement pour le Seigneur. Et cette liberté-là, je dirais, c'est la plus belle des libertés à expérimenter. On peut, lui, il parlait là de la prison, et il dit que la prison, ce n'est pas forcément d'être derrière les barreaux, mais celui aussi qui est dans une forme d'esclavage par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, il est aussi dans une prison. Et il a besoin de recevoir cette véritable délivrance qui vient du Seigneur. Mais il y a aussi certaines épreuves que nous vivons qui sont comme des prisons. C'est-à-dire qu'on la porte tellement, on la porte mal cette épreuve-là, qu'on a le sentiment que Dieu nous a abandonnés, qu'on a le sentiment que Dieu ne nous attend pas, et ça nous met dans une forme de frustration, ça affaiblit notre foi, et ben, ça nous emmène finalement à être tristes et à être malheureux. Mais la véritable liberté, la véritable délivrance, c'est lorsque le Seigneur nous libère. Nous sommes dans l'épreuve, mais on ne vit pas comme si on était dans l'épreuve. Il y a ceux qui veulent être libres, uniquement lorsque Dieu arrête l'épreuve. C'est là où il s'est dit, je suis libre. L'épreuve est finie, l'épreuve est passée, je suis libre. Mais ce n'est pas ça la meilleure, façon dont nous pouvons expérimenter la délivrance de Dieu. La vraie liberté, elle est, je suis dans l'épreuve, mais je vis normalement. L'épreuve ne m'empêche pas de vivre. Elle ne m'empêche pas de louer le Seigneur. Elle ne m'empêche pas de servir Dieu. Elle ne m'empêche pas de pouvoir sourire à mon frère ou à ma sœur. Je suis libre. C'est cette véritable liberté que nous devons rechercher. Bien que l'épreuve soit là, nous considérons déjà que le problème est déjà réglé. Et lorsque nous sommes libres de cette manière-là, alors nous pouvons véritablement expérimenter ce qu'est la gloire de Dieu, d'une certaine manière. Et pour finir, il a invoqué le nom de Jésus, comme le point a été soulevé aussi, lorsque le co-détenu voulait l'égorger. Et il s'est souvenu de cette parole que celui qui tue par l'épée, périra aussi par l'épée. Donc il n'a pas voulu, quelque part, se défendre lui-même. Il a tout simplement invoqué le nom du Seigneur. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est ce qu'il dit après. Il dit que cette expérience que je venais de vivre avec le Seigneur m'a donné la foi pour la suite. On a besoin d'expérimenter des victoires avec le Seigneur pour grandir dans la foi. Mais ces victoires, nous les expérimentons uniquement lorsque nous osons mettre la parole de Dieu en pratique. Tu es dans une situation, la Bible te dit que pour telle situation, fais ça. Expérimente ça. Mets en pratique. Parce que lorsque tu verras le Seigneur se glorifier parce que tu as obéi, ça te donnera la force d'obéir pour les fois prochaines. Et c'est ça qui est important, c'est de voir finalement l'effet de l'obéissance. Lorsque nous mettons l'obéissance, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est de voir finalement l'effet que ça produit dans notre vie. Et c'est de cette manière-là que nous grandissons avec le Seigneur, lorsque les épreuves se présentent et que nous passons l'épreuve en pratiquant ce qui est écrit. C'est de cette manière-là que nous grandissons. Mais lorsque l'épreuve est là et qu'on veut résoudre nos problèmes avec notre propre moyen, avec notre propre intelligence, c'est la raison pour laquelle on reste encore des bébés spirituels, qu'on ne grandit pas et qu'on se limite encore à prendre les miettes que le Seigneur donne, alors que le Seigneur pourrait donner bien plus que ça. Lui, il a expérimenté, et cette expérience-là est quelque chose finalement qui fait désormais partie de sa vie. Alors quel que soit ce que tu pourras lui dire, lui, il a vécu ça, personne ne pourra lui enlever. C'est comme cet homme qui était aveugle et que les gens ont voulu corrompre en disant, dis simplement que c'est Dieu. Il dit, moi je sais que c'est cet homme qui m'a guéri. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Donc même si vous voulez me dire de renier, il dit, mais je ne peux pas renier, ça s'est passé en moi. Je sais que j'étais aveugle, je le sais, c'était ma vie, mais désormais je vois. Dans ce changement que le Seigneur a opéré dans sa vie, qui va lui convaincre que rien ne s'est passé? Ce que tu étais autrefois, toi tu le sais au fond de toi. Même des choses que je peux ignorer, tu peux expliquer, mais toi c'est dans ton cœur. Et tu sais ce que le Seigneur a fait de toi aujourd'hui. Même si je veux te convaincre à dire le contraire, mais ça fait partie de toi. Tu ne peux pas nier que tu étais comme ça et que tu es devenu comme ça. Tu l'as vécu. Donc même si les gens veulent te dire que mais ça n'existe pas toutes ces choses-là, regarde, c'est peut-être... Non, toi tu dis, moi je sais ce que j'étais. Et je sais ce que le Seigneur a fait de moi aujourd'hui. Donc même si tu veux me convaincre que Dieu n'existe pas, en tout cas moi je sais ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Et ça, personne ne pourra l'enlever. Et lui, c'est ce qu'il a vécu. Et cette expérience-là est quelque chose qui le sert, qui le servira toute sa vie. Donc apprenons aussi à garder et à nous souvenir de ce que le Seigneur fait avec nous. Et de nous remémorer cela, de bénir le Seigneur quand nous avons le temps de repenser à tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour nous et de bénir le Seigneur pour ça, que ça reste en nous et qu'au moment opportun où on te dira Dieu t'a abandonné, tu te souviendras de ce que Dieu avait fait pour toi. Tu dis non, c'est Dieu-là qui avait fait ça pour moi, il est fidèle. S'il l'a fait autrefois, il le fera encore aujourd'hui. Amen.